Lentement, suivant le mouvement de James, Paul se déplaça sur la droite. Le souvenir des variables qu'il avait entrevues dans le bouillonnement du temps revenait le troubler maintenant. Sa perception nouvelle lui révélait que ce combat comportait trop de décisions en un court laps de temps pour qu'un chemin se dessine plus clairement entre tous ceux qui étaient probables. Les variables se multipliaient. C'était pour cela que la caverne semblait un nexus flou dans le cours du temps. C'était comme un rocher géant dressé dans le flot, créant de nouveaux courants, des tourbillons. « Finis-en, garçon, » grommela Stilgar. « Ne joue pas avec lui !» Paul s'avança à l'intérieur du cercle, confiant en sa rapidité. Et James battit en retraite. Il comprenait soudain qu'il n'avait pas en face de lui un étranger vulnérable pris au piège du Tahadi, une proie facile pour le Kris. Jessica lut l'ombre du désespoir sur les traits du Fremen. « C'est maintenant que le danger est le plus grand, » se dit-elle. « Le désespoir peut l'inciter à n'importe quoi. Il vient de découvrir que ce n'est pas un enfant qu'il affronte, mais une machine de combat entraînée depuis ses premiers jours. Maintenant, la peur que je lui ai instillée doit produire son effet. » Et tout au fond d'elle-même, elle éprouva de la pitié pour James. Une pitié dominée par la conscience du danger que courait son fils. James peut faire n'importe quoi, un geste inattendu. Et elle se demanda si Paul avait entrevu cet avenir, s'il revivait une vision. Mais dans ses mouvements, dans les gouttes de sueur qui perlaient à son front et sur ses épaules, dans la tension de ses muscles, elle lut pour la première fois l'incertitude dont était marqué le pouvoir de son fils. Paul cherchait le combat maintenant, mais il continuait de se déplacer sans attaquer. Il avait décelé la peur chez son adversaire. La voix de Duncan Idaho s'éleva dans sa mémoire. « Lorsque ton adversaire a peur de toi, laisse les rênes libres à sa peur pour qu'elle fasse son œuvre. Qu'elle devienne terreur. L'homme qui a peur lutte avec lui-même. À la fin, il attaque par désespoir. C'est l'instant le plus dangereux, mais en général, l'homme terrifié commet une erreur fatale. Tu as été éduqué pour déceler ce genre d'erreur et en profiter. » Une rumeur monta de l'assistance. Il croit que Paul joue avec James, se dit Jessica. Il pense qu'il est inutilement cruel. Mais elle sentait aussi le courant d'excitation qui circulait parmi les Fremen, leur joie devant le spectacle, et la pression qui montait en James. Elle sentit le moment précis où cette pression se fit trop forte, comme James lui-même, ou Paul. James bondit, feinta, et frappa de la main droite. Mais sa main était vide. Le couteau était passé dans l'autre main. Jessica se figea. Mais Paul avait été averti par Shiny. Il se bat des deux mains. Ce détail s'était gravé en lui. Pense au couteau et non à la main qui le tient, lui avait souvent répété Gurney Halleck. Le couteau est plus dangereux que la main et il peut être aussi bien dans l'une ou dans l'autre. Et il avait vu l'erreur de James, le déséquilibre qui le retarderait le temps d'un battement de cœur, après ce bond qui ne visait qu'à le désorienter et à dissimuler le changement de main du couteau. Tout se passait comme dans la salle d'entraînement, si l'on oubliait l'éclat jaune des brilleurs et la multitude des yeux noirs tout autour. Les boucliers ne comptaient plus quand les propres mouvements du corps pouvaient être utilisés contre lui. Paul passa son couteau d'une main à l'autre en un éclair, se jeta de côté et frappa à l'endroit précis où allait se trouver la poitrine de son adversaire. Il recula pour le voir s'effondrer. James tomba la face contre terre. Il émit un râle, essaya de tourner son visage vers Paul, puis demeura immobile. Ses yeux morts étaient deux perles sombres. Tuer avec la pointe n'est pas très artistique, avait dit Idaho une fois. Mais que cette considération ne freine pas ta main quand l'occasion se présentera. Les Fremen se précipitèrent dans le cercle, bousculant Paul, se pressant autour du corps de James dans une activité frénétique. Puis un groupe repartit vers les profondeurs de la caverne, emportant un fardeau enveloppé dans une robe. Sur le sol, il n'y avait plus rien. Jessica s'élança vers son fils au sein d'une mer de robes, de dos à l'âcre odeur, une mer étrangement silencieuse. « Voici le moment terrible, » se dit-elle. Il a tué un homme grâce à la supériorité évidente de ses muscles et de son esprit. Il ne faut pas qu'il grandisse en s'en réjouissant. Elle se fraya un chemin jusqu'à l'étroit espace où deux Fremen aidaient Paul à remettre son distil. Elle regarda son fils. Il avait les yeux brillants, le souffle court. Il semblait accepter l'aide des Fremen avec indifférence. « Il s'est battu avec Jemis et il n'a pas une marque, » dit l'un d'eux. Shiny se tenait à l'écart, les yeux fixés sur Paul, et Jessica devina son excitation et vit l'admiration sur son visage. « Il faut faire vite, » songea-t-elle. Elle mit tout le mépris possible dans sa voix et son attitude et demanda « Eh bien, quelle impression ressent le tueur ?» Paul se raidit comme si elle venait de le frapper. Il affronta le regard froid de sa mère et le sang afflua à son visage. Involontairement, il tourna les yeux vers l'endroit où s'était effondré Jemis. Stilgar surgit à côté de Jessica. Il revenait des profondeurs de la caverne où l'on avait emmené le corps de Jemis. Il s'adressa à Paul sur un ton mesuré, froid. « Lorsque le moment viendra où tu me défieras et tenteras de prendre ma bourda, n'espère pas jouer avec moi ainsi que tu l'as fait avec Jemis. » Jessica vit que les paroles de Stilgar, après les siennes, s'imprimaient en Paul, accomplissaient leur œuvre. L'erreur que commettaient ces gens devenait utile à présent. Tout comme son fils, Jessica observa les visages qui les entouraient et elle vit ce qu'ils voyaient. De l'admiration, bien sûr, et de la peur, mais aussi du dégoût. Elle regarda Stilgar et comprit la raison de son fatalisme, la façon dont il avait assisté au combat. « Vous savez ce qu'il en était, » dit Paul en regardant sa mère. Elle perçut dans sa voix le remords, le retour à la raison, et promena son regard sur ceux qui les entouraient en déclarant « Paul n'avait jamais encore tué un homme avec une arme blanche. » Stilgar lui fit face, incrédule. « Je ne jouais pas avec lui, » dit Paul. Il s'avança devant sa mère, ajusta sa robe et regarda la marque sombre du sang de Jemis sur le sol de la caverne. Je ne voulais pas tuer. Jessica sentit que, lentement, Stilgar acceptait la vérité. Il porta une main aux veines saillantes à sa barbe, et il y avait du soulagement dans ce geste. Des murmures coururent parmi les Fremen. C'est pour cela que tu l'as invité à abandonner, dit Stilgar. Je vois. Nos coutumes sont différentes et tu en comprendras la raison. Je pensais que nous avions accepté un scorpion parmi nous. Il hésita et ajouta « Je ne t'appellerai plus, garçon. » Une voix lança « Il lui faut un nom, Stil. » Stilgar acquiesça « Je discerne la puissance en toi, une puissance semblable à celle d'un pilier. » À nouveau, il hésita avant de poursuivre. « Nous te connaîtrons sous le nom d'Uzul, la base de pilier. Ce sera ton nom secret, ton nom de soldat. » Nous seuls du Siege Taber pourrons l'employer. Uzul. Des voix murmurèrent. Bien choisi. Cette force, elle nous portera chance. Et Jessica comprit qu'ils acceptaient son fils et que, en même temps, ils l'acceptaient elle aussi. Elle était vraiment la Sayadina. À présent, dit encore Stilgar, quel nom d'homme veux-tu que nous choisissions devant tous? Paul jeta un coup d'œil à sa mère. Puis regarda de nouveau Stilgar. Des fragments de cet instant correspondaient à sa mémoire prescience, mais les différences lui semblaient physiques. C'était comme une pression puissante qui le forçait à franchir l'étroite porte du présent. « Quel nom donnez-vous à la petite souris, celle qui saute ?» demanda-t-il, se souvenant des petits bruits de pattes dans le bassin de Tuono et mimant de la main. Des rires s'élevèrent parmi les Fremen. « Nous l'appelons Muad Dib, » dit Stilgar. Jessica se raidit. Paul lui avait dit ce nom déjà. C'était ainsi, selon lui, que les Fremen l'accepteraient et l'appelleraient. Tout soudain, elle eut à la fois peur de lui et peur pour lui. Paul sentait qu'il jouait en cet instant un rôle qu'il avait joué d'innombrables fois dans son esprit. Pourtant, il y avait des différences. Il était sur un sommet vacillant, riche d'expériences, de connaissances, mais tout autour de lui n'était qu'abysse. Il y eut à nouveau la vision des légions fanatiques suivant la bannière noire et verte des Atréides, laissant dans l'univers un sillage d'incendie et de pillage au nom de leur prophète, Muad'Dib. « Cela ne doit pas être, » se dit-il. « Est-ce le nom que tu souhaites, Muad'Dib ?» demanda Stilgar. « Je suis un Atréide, » dit-il très bas, avant d'ajouter d'une voix forte. « Il n'est pas juste que j'abandonne entièrement le nom que m'a donné mon père. Pourrais-je porter parmi vous le nom de Paul Muad'Dib ?»« Tu es Paul Muad'Dib, » fit Stilgar. « Ce n'était dans aucune de mes visions, » pensa Paul. « J'ai agi différemment. » Mais autour de lui, les abysses demeuraient. À nouveau, il y eut des murmures dans la foule. « La sagesse et la puissance. On ne peut demander plus. C'est certainement la légende. L'Iran al-Haïb. L'Iran al-Haïb. » « Je vais te dire une chose à propos de ton nouveau nom, » dit Stilgar. « Ton choix nous plaît. » Muad'Dib a la sagesse du désert. Muad'Dib crée elle-même son eau. Muad'Dib se cache du soleil et voyage dans la fraîcheur de la nuit. Muad'Dib est féconde et se multiplie à la face de la terre. Muad'Dib est le nom de ceux qui instruisent les enfants. Voilà une base solide sur laquelle construire ta vie. Paul Muad'Dib, Ouzoul parmi nous. Nous te souhaitons la bienvenue. Il toucha le front de Paul de la paume de sa main, le prit entre ses bras et murmura « Ouzoul ». Puis il se retira et ce fut le tour d'un autre Fremen d'étreindre Paul en prononçant son nom « Ouzoul ». Et d'un autre encore. Tour à tour, tous les hommes répétèrent le geste, le nom « Ouzoul, Ouzoul, Ouzoul ». Paul prit conscience que, déjà, il pouvait en reconnaître certains et se rappeler leur nom. Et puis, Shaini pressa sa joue contre la sienne et, à son tour, dit son nom. Puis il se retrouva face à Stilgar qui déclara « À présent, tu appartiens à Lichuan Bedwine, notre frère. » Son visage se durcit et sa voix se fit impérative. « Maintenant, Paul Muad'Dib, tu vas resserrer ce distil. » Il se tourna vers Shaini. « Shaini !» Les filtres de ses narines sont aussi mal mis que possible. Je croyais t'avoir ordonné de veiller sur lui.
Je n'avais pas d'embout, Steel. Et il y avait Jemis.
Ça suffit.
Je vais lui donner un des miens, dit-elle. Je pourrais me débrouiller avec un seul jusqu'à...
Non. Je sais que nous avons des pièces de rechange. Où sont-elles? Sommes-nous une troupe ou une horde de sauvages?
Des mains se tendirent. Stilgar choisit 4 objets durs, d'aspect fibreux, et les remit à Shaini.
Occupe-toi d'Ouzoul et de la Sayyadina.
Hello, Steel, demanda une voix dans la troupe. Ils en ont des jolitres dans leur bagage.
Je connais tes besoins, Farok, dit Stilgar. Il regarda Jessica qui acquiesça.
Prenez-en un pour ceux qui en ont besoin, reprit Stilgar.
Maître d'eau? Où y a-t-il un maître d'eau?
Ah! Shimoum,
veille à mesurer la quantité nécessaire et rien de plus. Cette eau est la propriété de la Sayyadina et lui sera remboursée au siège au taux du désert, droit d'emballage déduit.
Qu'est-ce que le remboursement au taux du désert? Demanda Jessica.
10 pour 1, dit Stilgar.
Mais
c'est une règle sage, vous le comprendrez.
Dans un froissement de robe, des hommes allèrent chercher l'eau. Stilgar leva la main et le silence s'établit.
Quant à Jemis, dit-il, la cérémonie sera pleinement célébrée. Il était notre compagnon et frère de Lichuan Bedwine. Nous ne nous détournerons pas sans le respect dû à celui qui a mis notre chance à l'épreuve par son tahadi. Le rite aura lieu au crépuscule, quand l'ombre le recouvrira.
Paul, en entendant ces mots, sentit qu'il plongeait une fois encore dans les abysses, un moment aveugle. Dans son esprit, il n'y avait nul passé pour cet avenir.
si ce n'est... Oui, il pouvait encore distinguer la bannière verte et noire des Atréides flottant quelque part au-devant de la route, les mots sanglants du djihad et les légions fanatiques. « Cela ne sera pas, » se dit-il. « Je ne peux le permettre. »